Vivrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Architecture. Urbanisme. Cadre de vie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet qui me tient à cœur, qui est le problème du financement des bâtiments, du financement de l'architecture, et d'une manière générale, qui ramène à l'argent public. Puisqu'en fait, les bâtiments principaux qui ont mis le logement et le commerce sont des bâtiments qui sont payés par l'argent public. Et alors, je pense que tout le monde sera d'accord qu'il y a en France, j'en ai déjà parlé, ce n'est pas moi qui vais découvrir la question du déficit public qui est de 3300 milliards d'euros. Et bien sûr, on ne peut pas attribuer ça aux bâtiments, aux constructions. Mais je pense qu'il y a une grande part dans la désinvolture. Alors, il ne s'agit pas de remettre en cause la réalité, les besoins, la nécessité des bâtiments publics et également dans ces bâtiments publics, la part considérable qui est la part du logement. Mais il faut rappeler ce que disait récemment le ministre de l'Intérieur, un pays qui ne tient pas ses comptes ne tient pas son rang. Et là, on peut dire qu'on a une dérive générale dans laquelle de nombreux acteurs ont leur part, et ce n'est pas une question uniquement du gouvernement central. Il y a, je pense, un laxisme général, et du moment que c'est de l'argent public, on peut le dépenser. Alors, on revient sur notre sujet de la dépense des bâtiments, et je parlerai de mon expérience, puisque, comme vous le savez, je suis architecte, et j'ai construit des bâtiments divers, et des bâtiments publics, et j'ai été confronté à ce problème-là, non pas que je me plaigne, comme beaucoup d'architectes le font, d'une manière qui me paraît là aussi anormal, qu'on sous-estime au départ les bâtiments et que donc pour la gloire de l'architecture on a le droit de dépasser les coûts. Bon, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais que l'on entend dans les écoles d'architecture, que l'on entend également dans les organes professionnels qui renvoie on peut dire la faute de la dépense publique et de ses dérives, des augmentations des bâtiments sur l'air du temps, quelque part, quoi. Voilà, donc c'est la faute à personne. Et pourtant, nous avons une inflation, et là aussi ça fait partie du coût, une inflation considérable on peut dire, des contrôleurs, entre guillemets. On peut dire que dans un passé qui n'a pas besoin de remonter au Moyen-Âge ou à celui XIV, il y avait une relation directe entre le maître d'ouvrage et l'architecte. Alors, ce passé n'est pas très ancien. Je parle de l'après-guerre, de la grande période de la construction, et on ne peut pas dire, comme l'on dit dans certains domaines, on est dans une autre époque parce que avant il y avait peu et maintenant il y a beaucoup. Non, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que la France a rattrapé son retard et dans la dans la deuxième partie du XXe siècle. Et il y avait de ce fait des logements insalubres, il y avait un manque d'équipements publics, certains complètement, par exemple les bâtiments sportifs qui avaient été commencés par la Fonds populaire, on avait un manque de logements total, les universités étaient très réduite au niveau bâtiment. Il a fallu construire des universités pour la nouvelle vague de jeunes de la population. Et donc, ce phénomène, on peut dire, s'est ralenti. Actuellement, on a toujours des besoins. Et je parlerai dans la deuxième partie de l'émission des logements et de la problématique de renchérissement du logement et de problématique du manque de logement également. Mais restons à ce sujet qui est, vous le voyez venir, le problème de, on peut dire, de la technostructure face à l'architecture. On peut résumer ainsi. Alors, ce que je vous disais, c'est que toute cette après-guerre s'est construite d'une manière assez simple, à part des relations directes, où il y avait des budgets, des architectes qui avaient à remplir leur mission, et on a construit, par exemple, la Caisse des dépôts et consignations a construit plus que des milliers, des millions de logements dans l'après-guerre, avec des équipes extrêmement réduites, des petites équipes de 5 ou 6 personnes sont arrivées à faire cela. Et également, jusqu'à une époque assez récente, où avant la décentralisation, il y avait une centralisation, par exemple, des bâtiments de l'éducation où les services du rectorat construisaient les écoles maternelles, les écoles primaires, les lycées, les collèges, les lycées et les universités. Et donc, il y avait une équipe de 5 ou 6 personnes, peut-être une dizaine, pour construire ces bâtiments. Et on a beaucoup construit. On construisait un collège par semaine à un moment donné. Enfin, il y a eu une époque intense de construction qui a été faite avec très peu de gens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé un phénomène extrêmement curieux, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le nombre de bâtiments construits diminuait, l'administration augmentait. Alors, on a pour cela saucissonné les missions d'architectes, il y avait les bureaux d'études, on a eu de plus en plus d'intervenants dans le processus, et il fallait organiser des mises en compétition, et donc on est arrivé à avoir des armées mexicaines pour en fait un résultat qui est très faible, et de plus, avec ce que je vous disais, des coûts qui ne cessaient d'augmenter, ou en tout cas qui étaient le moins maîtrisés, ce qui est paradoxal. Mais le paradoxe, on peut aussi l'expliquer, et je vais essayer de vous l'expliquer. Donc, on peut dire que avec la décentralisation, on a eu, regardez par exemple, dans notre région, il y a un organisme qui est régional, au niveau de la région, qui s'occupe donc des lycées et aussi des universités. C'était avant le rectorat, mais ça a été rentré dans les responsabilités de la région. Mais le département fait aussi les collèges, les écoles primaires, les communes font les écoles maternelles, nous avons une ville comme Toulouse, où nous avons des services d'urbanisme, des services de cité urbaine, puis on a rajouté la métropole, et on a rajouté aussi les communautés de communes qui ont aussi des chargés justement d'encadrement des bâtiments construits, ceux que je vous citais, qui peuvent être au niveau de l'éducation, mais qui vont être aussi des maisons de la culture, etc., ou des médiathèques. Et tout cela fait, en fait, un nombre très très important de personnes. Et comme je vous disais, ça n'a pas fait baisser les coûts. Alors, pourquoi ? Alors, la question est assez, on peut dire, dérangeante. C'est-à-dire que ces équipes ont besoin de s'occuper. Alors là, je vais évidemment franchir le Rubicon par rapport à cela. Et les équipes n'ont pas intérêt à avoir des gens très compétents en face d'elles, puisque ça ne justifierait pas leur emploi. Donc, on va se servir sous le prétexte d'employer des jeunes architectes. Alors ça, évidemment, ça plaît énormément, et c'est très démagogique, entendu que le problème de la compétence n'est pas lié à l'âge. On est compétent, quel que soit son âge, dans toutes les matières. On ne cherche pas un médecin qui une équipe de jeunes chirurgiens. On demande qu'ils soient compétents dans un domaine, quand on va chez le vétérinaire, quand on cherche un notaire ou un avocat. Donc, la question de l'âge est rentrée, et par exemple, on a imposé à un moment donné qu'il y ait des jeunes architectes dans les équipes, et sous cette démagogie, on a effectivement favorisé une certaine incompétence qui permettait aux équipes de se justifier. Alors, je sais que je mets les pieds dans le plat, mais c'est tout le problème de la réglementation. C'est-à-dire que plus vous avez des techniciens, de la technostructure, et plus vous allez avoir besoin de créer des règlements, et quand on crée des règlements, on va créer des gens qui vont vérifier les règlements. Et donc, on n'en sort plus, et on a besoin aussi que les choses soient déréglementées. Autrement, si tout est bien en phase, on n'a plus besoin d'inspecteurs, de réglementation. Donc, on a aussi dans les équipes imposé des coordinateurs, il y a des aides à la maîtrise d'ouvrage, on a évidemment les thermiciens, les chauffagistes, tout ce qui est aussi indispensable avec les paysagistes. On a créé des armées mexicaines, là où effectivement un architecte contrôlait l'ensemble de ses missions et était responsable. Et quand vous diluez un grand nombre de personnes, vous diluez les responsabilités ou même vous les effacez complètement. Donc, quand il y a un dépassement, c'est la fatalité. Il y a eu un dépassement de crédit et on a un dépassement aussi de temps, de délai et aussi des malfaçons. Mais ça apparaît comme une fatalité, comme la grêle qui arrive de temps en temps pour bousiller les récoltes. Donc, le système du coût, c'est pas la peine de chercher très loin pourquoi on ne maîtrise pas les coûts dans le bâtiment et avec les projets publics. Je vous ai donné l'explication. Bon, la deuxième partie, je vais vous parler du logement. C'est un sujet certainement qui intéresse les auditeurs.
Thank you.
Je tiens à remercier Sacha pour cette excellente pause musicale par Duke Ellington et une musique tout à fait dynamique, entraînante pour un sujet qui est un peu triste, effectivement, qui sont les dépenses publiques et le logement, là, on peut dire la pénurie de logement en France, qui est quelque chose qui est endémique depuis, on peut dire, quelques décennies, en tout cas, surtout ces dernières années. Alors, c'est bien quelque chose que l'on peut prévoir, c'est le logement, parce que la population, c'est quelque chose qui est comptabilisé, on connaît les classes d'âge, donc il ne peut pas y avoir de surprise. Il y a certains domaines où on peut avoir des pénuries, parce qu'il y a des circonstances extérieures qui dépendent de l'économie mondiale, dans l'industrie notamment, où les choses sont plus complexes. Mais là, on est sur la stabilité la plus totale, donc le prévisionnel du logement, c'est quelque chose qui devrait être planifié, c'est cela le mot, et d'une manière rigoureuse, et ne pas se retrouver aujourd'hui avec, par exemple, dans toutes les villes universitaires, un manque très important de logements étudiants, avec forcément, quand il y a pénurie, il y a augmentation des coûts, et tout cela est très perturbant pour des populations qui sont la plupart du temps des jeunes et des mineurs, des familles, et tout ça est quelque chose qui a eu des répercussions, notamment sur la démographie. Alors, c'est pas la peine de pleurer, de voir que la France, aujourd'hui, on a une baisse démographique très importante. Je pense qu'il y a lié à cela, un problème qui est très simple, c'est-à-dire que les familles, si on veut avoir des enfants, il faut avoir l'appartement qui correspond au nombre d'enfants, et comme la mobilité est devenue de plus en plus difficile et ou chère, et demandant des sacrifices, eh bien, effectivement, le nombre d'enfants n'augmente pas, ou même dans des jeunes couples qui hésitent d'avoir des enfants parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas la possibilité d'acquérir ou même de louer simplement un appartement ou une maison pour recevoir les enfants à venir. Donc, ce problème-là, on a en France une habitude que vous avez tous entendue, c'était « il faudrait plus de HLM pour loger les gens ». Alors là aussi, je vais aller contre les idées reçues, et on entend ça régulièrement, avec notamment, on a eu les partis communistes de la gauche, on peut dire radicale, qui ont dit qu'il fallait rendre inéligibles les maires qui ne respectaient pas les quotas. Alors là aussi, cette question des quotas est au centre de l'histoire, puisque on impose des quotas de logements HLM. Alors, il faut bien entendre ce que je dis. Je ne suis pas pour le fait que des bâtiments à loyer modéré soient diminués. Mais il faut rappeler un petit historique des HLM, je l'ai eu déjà fait, mais ça mérite une piqûre de rappel, c'est que les HBM, les habitations bon marché du Front Populaire, on peut dire, de la période d'avant la Deuxième Guerre mondiale, ont été une innovation. C'est des bâtiments bon marché, c'est-à-dire qui étaient positionnés entre, on peut dire, les appartements ou l'habitat insalubre qui, en France, était celui des populations, on peut dire, même non seulement populaires, mais même les Français moyens qui vivaient dans des conditions, on peut dire, de sanitaire, d'absence du minimum que l'on exige aujourd'hui, c'était généralisé. Donc la France était même en retard par rapport aux autres pays européens. Donc, on construisait aussi, entre l'habitat des riches et l'habitat, on peut dire, insalubre, un habitat qui était bon marché mais qui correspondait aux normes. Donc, la deuxième guerre mondiale passée, on a eu donc les problèmes de reconstruction d'une part, et on a eu aussi une démographie, tout le monde a entendu parler du baby boom, avec une démographie qui avait explosé à la fin de la Deuxième Guerre et après la Deuxième Guerre, qui a fait qu'il fallait loger un plus grand nombre de familles. Et donc, il y a eu les opérations, les grands ensembles, puis la deuxième période des années 60-70 a été le pavillonnaire. En tout cas, on a beaucoup construit. Et on a construit, effectivement, des habitations à loyer modéré. Mais avec le temps, les réglementations et, on peut dire, une sorte d'uniformisation de la société, on est arrivé à ce que les HLM atteignent le niveau du parc immobilier privé de qualité. Et donc aujourd'hui, on est très fiers de dire aujourd'hui, les HLM, ils ont la qualité des bâtiments des promoteurs. Alors, la question qui est posée, mais pourquoi fait-on des HLM puisqu'ils sont exactement pareils que les autres ? Mais pour que les gens aient des loyers modérés. Mais le problème des loyers modérés est un problème qui pourrait être résolu à la base. C'est-à-dire qu'on aide ce qui existe déjà avec les APL, on aide les gens à l'accession au loyer ou à la propriété avec des aides d'État. Donc aujourd'hui, on a un système complètement dépassé, baroque. Il faut dire que les autres pays européens qui ont eu à peu près les mêmes problèmes que nous dans le XXe siècle, par exemple en Allemagne, on peut dire qu'ils ont supprimé, mais dans les pays nordiques aussi, on a supprimé les HLM et qui sont remplacés par des aides à la personne. Donc, pour le fait que, effectivement, les bâtiments sont identiques. Donc, pourquoi avoir des organismes, encore une fois, avec des services de constructeurs, toute une série de procédures complexes qui coûtent très cher, des aides de l'État à ces organismes, mais tout ça, ça coûte des milliards, ça coûte 30 milliards par an, et pour un effet qui n'est absolument négatif, puisque on est en manque et on est en pénurie. Donc, on a un système qui, aujourd'hui, est à bout de souffle, et cette demande qui est faite des quotas, ces quotas, ça a été la loi Guesso. Alors, la loi Guesso, il faut rappeler que Guesso était, au moment, dans les gouvernements de la gauche de François Mitterrand, il faisait partie de l'Union des Gauches avec un étant communiste, et il appliquait ce que les communistes voudraient, c'est-à-dire une sorte de répartition des classes populaires pour des raisons électorales évidentes et pas je crois pas pour le bien public, et on est arrivé à cette implication absurde que l'on impose à Toulouse ou dans nombreuses villes, on impose que les promoteurs doivent avoir un certain nombre de logements HLM mais qui sont identiques aux autres, ce qui n'a évidemment aucun sens, qui va gréver des opérations. Tout ça est un système extrêmement complexe et qui n'est pas appliqué dans la vie courante. Il n'y a pas des voitures, un quota de voitures Mercedes décapotables pour les indigents. Enfin, tout ça n'a pas de sens. De plus, il y a un problème aussi qui est un peu compliqué, c'est que avec toujours une très bonne conscience, on a dit que les personnes qui avaient des difficultés pour se loger étaient prioritaires. Bon, évidemment, c'est quelque chose qui est, on peut dire, très généreux, mais qui a des conséquences, c'est qu'aujourd'hui, le parc immobilier est pris en première instance par les migrants, qu'ils soient réguliers ou irréguliers. Alors, on peut dire c'est de la générosité publique, et c'est très bien. Mais le problème, c'est que comme il y a une pénurie, ce problème n'apparaîtrait pas s'il n'y avait pas de pénurie, on se trouve à ce que le parc immobilier soit tenu par des immigrés, et souvent des immigrés récents, parce que la population, on peut dire, de l'immigration, des premières immigrations des années 60, ne loge plus, bien souvent, ne loge plus dans ces bâtiments. Ils sont dans le bâti général, et donc on se trouve aujourd'hui, pour des raisons humanitaires tout à fait justifiables, en fait, avec une question d'injustice, et notamment pour la population jeune française, qui va être, alors, comme je vous disais, étudiant, qui va être aussi pour les jeunes couples, et quand il y a dans un office HLM le choix, enfin on peut dire la demande entre un jeune couple qui veut faire un enfant mais qui habite chez ses parents et qui veut se loger, lui passe devant l'immigré qui arrive. Et alors ça, c'est quand même un problème un peu compliqué. Alors je ne suis pas en train de faire un discours anti-immigration, je dis simplement qu'il y a une injustice avec des conséquences qui sont graves, puisque on a le problème de la baisse démographique qui est, il ne faut pas se leurrer, c'est directement lié en première chose au logement. Donc quelle est la solution? La solution, elle est toute simple. Il suffit de faire des aides à la personne, et en fonction des revenus, et puis de favoriser la construction. Et aujourd'hui, on a d'une part cette imposition qui est faite aux maires, et en plus, mais on a des lois, notamment la loi zéro artificialisation nette, ZAN, comme la réglisse, eh bien, qui interdit de développer des terrains à viabiliser, donc les terrains deviennent plus chers, les opérations sont de plus en plus compliquées à monter pour les promoteurs, à la fois HLM, c'est-à-dire le privé ou HLM public ou privé, et les promoteurs privés également pour le marché privé. C'est un ensemble qui a exactement les mêmes problèmes pour un pays qui n'est pas la principauté de Monaco, et sur lequel nous avons effectivement des terrains. Alors il ne s'agit pas de construire n'importe où, il s'agit simplement de bien construire, et de construire avec on peut dire, pas une spéculation foncière qui a été créée artificiellement par les lois écologiques, et tout ça pour sauver la planète, mais on sauve ni la planète, et on a une incidence très négative sur la population, et surtout sur les populations les plus les vulnérables, fragiles, et qui sont en demande de logement. Voilà, alors je vous fais un panel aujourd'hui pessimiste d'une situation française qui est faite d'une sorte d'addition, de petites combines, de facilité et de lâcheté, je pense, pour une grande part, de ne pas nommer le problème et de poser le problème tel qu'il est, c'est-à-dire celui du logement et celui du coût des constructions publiques. C'était Où vivrons-nous demain ? Je vous souhaite une bonne semaine. Je remercie Sacha qui était à la technique. Et je vous dis à la semaine prochaine.